Yes. Okay. D'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation. Vraiment, je suis super contente d'être là. Moi, je vais vous parler donc des initiatives d'excellence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et plus précisément, je vais parler de leurs effets sur la profession académique. Et je vais un petit peu expliquer comment il y a des inégalités dans les segments professionnels qui ont été creusés par cette réforme et d'autres qui ont été créés. Je vais peut-être faire comme ça. Non. Donc, pour ce faire, je vais d'abord commencer par expliquer cette réforme qui a quelques spécificités qui sont importantes à avoir en tête pour comprendre réellement ce qui se passe. Ensuite, je vais brièvement présenter la méthodologie de la recherche et les données sur lesquelles je me base. Et après, donc, je vais surligner donc, trois résultats. Le premier, c'est les effets de concentration de ressources que cette réforme crée à l'intérieur des organisations, des universités. Et je vais montrer donc, comment ces concentrations de ressources elles affectent les inégalités dans le milieu académique. Et donc, comme je vous disais, comment elles renforcent les inégalités qui sont déjà présentes, mais aussi comment elles en créent de nouvelles. Et ça sera plus la restratification de la profession académique par le bas. Et tout ça avant de conclure. Mais d'abord, les initiatives d'excellence. Donc, les initiatives d'excellence qu'on appelle IDEX. C'est une déclinaison française de réformes qui sont à l'œuvre dans le monde. Juste pour vous donner une idée, c'est qu'on parle quand même en 2014 de 14 pays de l'OCDE qui ont adopté ce genre de réformes-là. Et on parle de pays en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Suède, mais aussi en Asie, en Chine, au Japon, en Israël aussi, plus récemment au Canada. Donc on parle d'une tendance globale. Et bon, vous vous en doutez bien, elles sont très différentes, ces réformes, d'un pays à l'autre. Par contre, elles ont quelque chose de précis, quelque chose de commun. Et qui est précise, c'est que toutes, elles visent à changer le système d'allocation des ressources dans la recherche, enfin dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et ça de deux façons. Elles augmentent la concentration des ressources et la compétition pour y accéder. Ça, peu importe les pays. Et donc, dans le cadre de la France, ça a pris la forme, donc, ça a été fait dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, le PIA. Et c'est l'appel à projet le plus important du PIA. Quand je dis le plus important, c'est celui qui porte le programme de réforme de l'ESR le plus fort. Et c'est aussi le plus lourdement doté, puisqu'on parle donc de 7,7 milliards d'euros qui sont concentrés sur seulement 9 sites universitaires en France. Et c'est quand même un appel à projet assez particulier, parce que bon, les IDEX, ça marque pas le premier appel à projet qui est en direction des universités en France. Il y a eu l'opération Campus, typiquement, avant. Par contre, c'est la première fois que les besoins des universités ne sont absolument pas pris en compte. C'est uniquement les performances. Et encore, il y a quand même une particularité, c'est que... l'excellence des performances scientifiques, elle est nécessaire pour que des universités soient labellisées IDEX, mais elle n'est pas suffisante. Le facteur vraiment décisif, c'est le projet de gouvernement scientifique. C'est les transformations organisationnelles qui sont mises en œuvre pour gérer différemment les activités essentiellement scientifiques, mais aussi, un petit peu aussi les activités d'enseignement. Et en fait, une fois que les universités sont sélectionnées dans le cadre des IDEX, elles ont 4 ans pour mettre en œuvre le projet qu'elles ont annoncé. Et pour ça, c'est seulement qu'une partie des fonds qui leur sont donnés. Donc pour 4 ans, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 700 millions d'euros et 900 millions d'euros qui sont donnés à ces universités pour qu'elles fassent les changements qu'elles ont annoncés. Et ensuite, elles sont évaluée par un jury international. Si elles passent cette évaluation, c'est la totalité des financements qui leur sont versés. Et ce qui est peut-être important de signaler, c'est que ces ressources, elles prennent la forme d'un capital donc, qui est donné à ces 9 IDEX qui génèrent des intéressements chaque année. Donc en fait, ces 9 universités, elles ont obtenu des ressources additionnelles permanentes, ce qui est assez rare par les temps qui courent. Et parce que l'important, donc, c'est les changements organisationnels et le projet de gouvernance, c'est aussi pour ça que la plupart, toutes les IDEX en fait, sont faites de fusion d'universités ou de fusion entre universités et grandes écoles. Et donc le but, c'est de retrécir, donc c'est de créer de nouveaux de clusters capables de rivaliser avec les meilleures universités du monde, de les doter d'équipes dirigeantes fortes avec plus de pouvoir exécutif et de donner la capacité à ces équipes dirigeantes de dégager des priorités scientifiques et par conséquent de concentrer les fonds qu'elles ont obtenus sur ces priorités-là. Et ça, c'est réellement nouveau dans l'enseignement supérieur français. Donc, moi, là, je vais vous présenter mon travail que j'ai fait en thèse. J'ai aussi approfondi cette recherche-là en post-doc, mais les conclusions dont je vais vous parler, elles sont issues de mon travail de thèse, où donc je me suis focalisée sur une université qui avait été labellisée université d'excellence dans le cadre des IDEX, et j'ai fait une analyse longitudinale, donc j'ai couvert à peu près une période de 25 ans en articulant sources orales et sources écrites. J'ai étudié une université, donc je garderai anonyme, qui est issue d'une fusion de 3 anciennes universités, qui est située en dehors de Paris, qui a été sélectionnée en 2012 dans le cadre des IDEX et qui a été validée. Vraiment, le statut IDEX a été dévolu de façon pérenne en 2016. Donc elles font partie de la première vague des IDEX qui sont créées. Aussi, quelque chose à avoir en tête, c'est que il y a une fondation qui a été créée en parallèle de l'université pour gérer, complètement dédiée au projet IDEX et à la gestion des fonds d'excellence. Et donc moi, dans ces 89 entretiens, j'ai essayé de suivre l'implémentation, c'est un très mauvais anglicisme ça, pardon, la mise en œuvre de cette réforme, donc localement, avec l'idée que, bon, les IDEX, c'était assez clair que ça créait des inégalités entre les organisations, mais moi, je voulais comprendre comment cette réforme, elle se dépliait à l'intérieur des organisations et de prendre la mesure des inégalités qui se jouaient à l'échelle d'un site universitaire qui était peut-être un questionnement qui n'était pas si évident que ça, si on avait quand on regardait la réforme comme ça, quoi, en gros. Donc ce travail, il est un peu au carrefour de la sociologie d'action publique, parce que j'ai essayé de comprendre comment un instrument d'action publique, enfin, ce qui contrôlait réellement, en fait, et puis aussi de la sociologie des professions. Parce que pour moi, je voulais comprendre comment les groupes professionnels dans le milieu académique étaient affectés par cette réforme-là, et aussi la sociologie des organisations, parce que tous ces changements affectent d'abord les configurations organisationnelles dans l'ESR. Et ce que j'ai vu donc en suivant la mise en œuvre de cette réforme dans ce site précisément, c'est que les IDEX créaient des effets de concentration de ressources. Et ça de façon différente. D'abord, par la réforme en soi, c'est clairement un but de cette réforme. L'un des aspects qui est assez clair là-dessus, c'est que dans le projet que les clusters d'universités doivent soumettre, il y a l'obligation de créer un périmètre d'excellence. Et c'est au sein de ce périmètre d'excellence que au moins 60% de la dotation IDEX doit être concentrée. Et donc clairement, la concentration des ressources, c'est un but de certains instruments d'action publique. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de ce périmètre d'excellence, il y a d'autres projets qui ont été labellisés par le PIA au niveau national. Alors je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais juste pour rappeler, le PIA, donc le plus gros appel à projet qu'il organise, c'est l'IDEX, mais il y a plein d'autres appels à projets d'excellence. Il y a les laboratoires d'excellence, les équipements d'excellence, mais je pense que vous en avez entendu parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que typiquement, si un projet a été labellisé au niveau national comme laboratoire d'excellence, s'il se trouve sur un site qui a été labellisé initiative d'excellence, ben, il reçoit des fonds du PIA deux fois. Donc en recevant sa propre dotation de laboratoire d'excellence, mais aussi en recevant une partie des IDEX. Donc une partie de la dotation que l'université a perçue du PIA. J'espère que c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est un effet qui résulte donc de la politique publique en soi, et ça crée ce genre de choses. Donc ça, c'est un extrait d'entretien qui vient donc d'un chercheur qui est un membre d'un pilotage d'un LabEx qui ensuite a été transformé en Institut Convergence, et c'est un autre appel à projet du PIA. Et il dit très bien que l'écueil de cette chose-là, donc la fondation IDEX, donc les fonds IDEX obtenus localement, c'est que l'argent va un peu à l'argent, quoi. Étant donné qu'on a déjà les fonds du LabEx, je me pose la question, est-ce que postuler à l'appel à projet École d'excellence d'EMEX, oui, EMEX, c'est l'université que j'ai étudiée, je lui ai donné le pseudonyme EMEX, je me rends compte que j'ai oublié de dire. C'est une bonne idée, et mes collègues en face de moi ont dit exactement ce que j'ai dit, bah oui, l'argent va à l'argent, donc si on arrive au contraire, ça veut dire que ça marche bien. Donc les décideurs, ceux qui choisissent de financer, ils vont dire, bah ouais, autant financer quelque chose qui marche. Et puis après, plus tard, il me dit que, parce que quand on a un projet à 400 000 euros en plus du projet Institut Convergence qui a plusieurs millions d'euros, on dépense pas, quoi. Donc là, clairement, ça illustre bien l'effet de concentration qui est à l'œuvre. Mais ce que j'ai vu, c'est que ces effets de concentration, ils étaient aussi renforcés par des mécanismes locaux, en tout cas par des décisions des équipes dirigeantes dans l'université que j'ai étudiée. Puisque cet effet de concentration, il est renforcé par les critères d'évaluation des projets d'excellence de la fondation IDEX. En gros, toutes les universités qui ont été labellisées IDEX ont décidé de répartir la plupart de leurs ressources IDEX à travers des appels à projets internes aux universités. Et ça, c'est assez nouveau aussi en France. Et sur l'université que j'ai étudiée, l'un des critères d'évaluation pour statuer qu'un projet d'excellence a bien fonctionné, c'est l'effet levier, c'est-à-dire la part de cofinancement que les chercheurs ont réussi à obtenir au sein du périmètre qui a été validé par la fondation. Et donc ça, forcément, ça augmente les fonds augmentés, et ça crée encore de la concentration de ressources. Et c'est ce que m'explique, par exemple, un directeur de laboratoire qui est donc inclus dans le Péridex. Donc il m'explique que ces fonds-là, ça a permis de recruter deux postdocs, de financer une plateforme en termes d'équipement, de cofinancer, et qui a été cofinancé par l'antenne locale d'un institut spécialisé autour de l'objet scientifique du laboratoire. Donc ça, l'IDEX a mis un jeton et Z a mis le deuxième. Et il continue en me disant, donc c'est typiquement ce qu'adore l'IDEX. Que devient l'argent que je mets dans le projet, le fameux effet levier. Donc voilà, ça, avec la mise en œuvre des IDEX, clairement ce que j'ai vu, c'est des effets de concentration, mais qui sont qui sont voulus par l'instrument d'action publique. et qui sont renforcées aussi par des mécanismes locaux et pour le coup des décisions qui sont prises à l'échelle locale par les équipes dirigeantes que j'ai étudiées. Et ça, j'ai vu donc que ça avait des effets sur les segments professionnels de la profession académique et puis les liens qu'ils entretenaient entre eux. Et plus précisément, enfin, je parle de restratification puisque les groupes professionnels du milieu académique sont clairement stratifiés. Il y a des inégalités qui existent et certaines ont été renforcées, d'autres créées. Et je vais d'abord vous parler de celles qui ont été renforcées. Ce que j'ai vu, c'est que il y avait certaines parties de la profession académique qui bénéficiaient plus que d'autres de la mise en œuvre de cette réforme. Et plus précisément, que les porteurs de projets d'excellence bénéficiaient fortement de cette concentration de ressources, parce que ce que j'ai vu, c'est que d'abord on parle de beaucoup d'argent au même endroit, mais il y a un autre aspect, c'est que ces périmètres sont stables, c'est-à-dire que la priorisation des activités scientifiques à l'échelle locale, elle se fait un petit peu par sédimentation. Donc au fur et à mesure des appels à projets, il y a une topographie un peu qui émerge au fur et à mesure qu'on concentre les fonds aux mêmes endroits, en fait. Et ça, c'est avec l'idée de donner une identité internationalement reconnaissable aux universités. Donc le but, c'est de par exemple, rendre très fort la médecine quelque part, quoi. Et du coup, en fait, au fil des appels à projets, ce sont les mêmes projets qui sont reconnus excellents. Ce que j'ai vu, c'est que les périmètres de ces projets, ils pouvaient changer à la marge, mais quand même, il y avait des personnes qui pouvaient être incluses dans certains projets et ensuite exclues. Par contre, ce qui restait constant, c'était la direction de ces projets. Les porteurs de ces projets restaient les mêmes, et ça, en termes d'effets structurants sur les carrières, ben c'est très fort. Et j'ai vu aussi comment c'était créé localement, parce que les équipes dirigeantes d'EMEX, autant dans les sources orales et sources écrites, elles disent qu'elles sont à la recherche de leaders charismatiques. Là encore, en fait, l'enjeu, c'est de doter les universités françaises de leurs scientifiques internationalement reconnus, en fait. Mais là encore, du coup, il y a une concentration des ressources plus leur personnification autour de certains chercheurs. Ça se traduit très concrètement dans leurs conditions de travail qui sont privilégiées, parce que en fait, être porteur de projets d'excellence sur le long cours, ça leur ouvre un panel d'actions, un répertoire d'actions plus grand et nouveau, notamment dans les règles administratives qu'ils ne sont pas obligés de suivre. Ce que j'ai vu sur mon terrain, c'est que au sein de ces projets-là, ces chercheurs pouvaient obtenir des exceptions, des traitements spécifiques, d'avoir de pas être obligés de suivre les règles qui sont d'habitude en place à l'université. Ça peut être la possibilité d'allouer un budget d'équipement, finalement le changer en ressources humaines, ce qui est d'habitude compliqué à faire, ou ça peut aussi être la possibilité de faire voyager quelqu'un en première classe. Mais vous savez à quel point c'est très compliqué de faire ça à l'université. Donc c'est ce genre de traitement de faveur, on parle de cette amplitude-là, en gros. Et ensuite, en termes de démographie, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a clairement une surreprésentation d'hommes à la tête de ces projets et aussi une surreprésentation d'hommes chercheurs, enseignants chercheurs qui viennent des facultés de sciences. Et ça, je veux bien insister sur le fait que c'est pas uniquement dans l'université que j'ai étudié, c'est quelque chose qui est à l'œuvre nationalement. Et je vous ai juste pris pour l'exemple. L'appel à projet des instituts Convergence, qui est le gros appel à projet du PIA qui a pris la suite des LABEX, et sur 20 porteurs de projets instituts Convergence, il n'y en a que deux qui sont des femmes. J'ai aussi vu dans ma thèse, j'ai fait une prosopographie des chercheurs et enseignants-chercheurs qui étaient recrutés sur ces fonds. Et il y a une surreprésentation d'hommes, et de façon assez classique, encore plus, enfin très peu de femmes, et vraiment très 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 peu de femmes quand on parle de professeurs. Quelque chose qui est assez... parce que bon, donc là, avec tout ce que je vous ai raconté, on voit clairement que y a des inégalités qui étaient déjà présentes dans le milieu académique, qui ont été fortement... rendue plus forte, renforcée, voilà. Et qu'en gros, il y a un petit peu un statut hors norme qui a été créé pour certains chercheurs, donc par le haut. C'est dans ce sens-là que je parle de restratification par le haut. Il y a aussi quelque chose qui se passe qui est moins visible, mais pour autant très important, parce que c'est aussi sur cette dynamique plus discrète que la dynamique plus visible de restratification par le haut se passe. C'est une restratification par le bas. Très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'avec ce nouvel afflux de ressources au sein des universités et de gros projets, donc de beaucoup d'argent, mais au même endroit, ça crée des besoins de gestion de projet qui sont très forts. Mais par contre, c'est impossible de recruter des biats et des personnels de soutien à la recherche sur ces fonds-là. C'est obligatoire il y a seulement des cadres de catégorie A qui peuvent être embauchés sur ces fonds-là. Du coup, ça a fait émerger de nouveaux postes, les postes de chargé de projet d'excellence. Et ça... ça repose sur une répartition des tâches qui est très floue entre le travail professionnel d'enseignant-chercheur et de chercheur et le travail administratif. C'est ce qu'un sociologue qui s'appelle Fujirama appelle le travail d'articulation, qui montre bien que les espaces des financements de la recherche est découplé des espaces de production des savoirs, et qu'il y a tout un travail très très onéreux pour articuler ces deux espaces, et c'est tout ce qu'on fait dans tout ce qui est un peu hybride de demande d'appel à projet, d'évaluation, de participation à des comités pour évaluer d'autres projets, de lobby pour tout ça, mais aussi des tâches très administratives de organiser concrètement une certaine journée d'études, etc. Et ça, c'est ces activités-là d'articulation, elles ont pris une importance, une plus grande importance avec ces projets d'excellence, et donc elles ont été dédiées donc aux, enfin c'est les chargés de projet qui en ont la charge. Et ce que j'ai vu sur le site que j'ai étudié, c'est que toutes les personnes qui occupaient ces postes sont des femmes. Qu'en fait, dans le cadre du marché du travail hyper tendu du milieu académique, c'était souvent ces postes, ils étaient vus comme des opportunités pour des chercheuses qui étaient en fin de contrat post-doc, qui n'avaient pas de contrat permanent, qui n'avaient pas réussi à être recrutées au CNRS ou maître de conf, etc. Voyez ces postes-là comme étant une potentielle opportunité professionnelle, puisque ces postes sont quand même présentés comme des pour certains, le doctorat est nécessaire. C'est censé être des postes d'accompagnement de la recherche d'élite, où il faut une expérience internationale, un PhD, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent ça se transforme souvent en occasion manquée, puisque la plupart du temps, ces postes ne sont pas en CDI, puisqu'on parle des projets d'excellence, c'est tout le temps c'est des CDD, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc ces personnes sont engagées sur des CDD qui sont pas renouvelables de façon indéfinie. Et dans la plupart des CIDEX, la politique de CDIsation de ces postes-là, elle est faite au cas par cas. Et dans le cas que j'ai étudié dans ma thèse, les mecs CDIsent ce genre de poste au cas par cas, et la plupart ne sont pas CDIsées. Ce qui se passe aussi, c'est que elles sont moins payées parce que notamment leur expérience postdoctorale n'est pas prise en charge, enfin n'est pas reconnue, alors qu'on parle de chercheuses qui ont enchaîné plusieurs contrats, donc des fois qui peuvent avoir jusqu'à 7 ans après la thèse, elles sont moins payées que leur ancien contrat. Et puis surtout, on voit un décalage entre ce qui leur est promis et puis ce qu'elles vivent au jour le jour, puisqu'elles ont bien conscience en fait qu'elles prennent en charge le sale travail de la recherche, étant elles-mêmes chercheuses. C'est ce que cette chargée de projet dans un LabEx m'explique. Elle me dit, ils appellent ça manager de stratégie scientifique, mais bon, j'aime bien dire que je suis là pour faire tout ce que les chercheurs n'ont pas envie de faire. En fait, pour être très honnête, on a l'impression d'être pris entre l'enclume et le marteau, entre un directeur excellent mais tyrannique qui n'a pas le temps de prendre son temps pour te parler. Pour lui, c'est très clair, il a eu l'opportunité de sa vie avec ce LabEx, il veut en tirer le meilleur, et toi, t'es là pour que ses ambitions se réalisent. Bon, tout ce qu'il veut, Dieu le veut. De l'autre côté, t'as un système universitaire incompétent, il faut le dire, avec la fonte des fonds, rien ne marche et tout est lent. En fait, ce qu'on voit bien avec cet extrait d'entretien, c'est que ce nouveau segment professionnel de chargé de projet d'excellence, c'est elle les petites mains de l'excellence, parce que c'est elle qui met en œuvre les projets, les grandes ambitions des IDEX au jour le jour dans les universités. Et en fait, je pense que ça fait beaucoup écho à ce que vous avez présenté avant sur le fait que il faut organiser une grosse journée d'études pour le LabEx avec les meilleures pontes qu'il faut faire venir des États-Unis en première classe, avoir quelqu'un qui se déplace dans un taxi avec la petite pancarte, les inviter dans un très bon restaurant le soir, etc. Et dans une université où des fois les locaux suivent pas, où il y a des projecteurs qui bougent pas, et elles sont là pour articuler ces deux registres d'action qui sont qui peuvent être considérés à l'opposé. Et c'est pour ça que leur travail est dur. C'est aussi que, à cause du rayonnement international, elles ont souvent à gérer des histoires de visa, des choses où il faut qu'elles restent éveillées tard pour pouvoir être au téléphone avec quelqu'un. Enfin bref, ça peut paraître. Je donne des exemples assez précis juste pour prendre la mesure de travail que ça recouvre, parce que ça recouvre aussi des fois penser à participer avec l'équipe dirigeante du projet d'excellence à raffiner l'axe scientifique du prochain LabEx ou de l'institut de convergence, etc. Donc ça c'est aussi un savoir et des compétences professionnelles. Et donc pour conclure, clairement, ce que j'ai vu, c'est que les IDEX créent des effets de concentration de ressources qui augmentent les inégalités entre les universités. Ça, c'est quelque chose qui est visible un peu de prime abord quand on voit cette réforme. Mais c'est une réforme qui a des effets de concentration et qui augmente les inégalités aussi à l'intérieur des universités. Et ça, c'est un petit peu moins visible. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ces inégalités, elles ont une dimension disciplinaire et genrée. Ce sont les disciplines issues des sciences naturelles et expérimentales qui en bénéficient le plus, et les chercheurs hommes. Et clairement, ça a des implications dans les dynamiques professionnelles dans le milieu académique, avec donc une profession qui est restratifiée par le haut, avec des porteurs de projets d'excellence qui bénéficient de conditions de travail privilégiées, mais aussi par le bas, avec l'émergence d'un nouveau segment de recherche où, pour le coup, des chercheuses non titulaires assurent le travail de coordination de projet qui est dévalué au sein de la profession et dans des conditions précaires. Et je pense que si j'essaie un petit peu de ramasser tous ces points pour une conclusion, dans un argument plus général, ce que je pourrais dire, c'est que les IDEX participent à reproduire de façon renouvelée des mécanismes qui sont au cœur du fonctionnement inégalitaire de la production du savoir, c'est-à-dire l'effet Mathieu, le fait que ça soit toujours les mêmes qui obtiennent les ressources dans le milieu académique, que ce soit les citations, les ressources symboliques, mais aussi les ressources financières. Et aussi l'effet Mathilda, donc l'effacement systématique des femmes dans la production du savoir. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
Merci.
C'était pas très positif, mais...
Avec des leaders charismatiques.
Oui.
Comment
ils vont faire? Je suis enregistrée ou pas pour la question
non, t'as bien fait, je voulais
faire. Mais ouais, pour répondre à la question.